Voilà, je vous propose de reprendre le texte d'un Chronique 12. On a lu le verset 23 et le verset 32. Et je vous propose de reprendre la lecture. Elle va être un petit peu plus longue maintenant. Tout à l'heure, nous avons parlé de la nécessité de détourner la royauté vers Christ. Et nous allons maintenant voir un peu le profil des fils d'Issacar qui avaient l'intelligence des temps. 1 Chronique, chapitre 12, verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Je fais remarquer que ce n'est pas une initiative humaine, pleine de bonnes intentions, de bonne volonté, ça ne suffit pas dans l'œuvre de Dieu. C'était selon l'ordre de l'Éternel. Alors nous allons voir un petit catalogue là, des diverses tribus. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui, 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issacar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs, des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Et ça donne le ton. David est l'homme selon le cœur de Dieu et le royaume ne va pas être plongé dans la tristesse, dans le désordre et je dirais même dans le satanisme parce que la veille de sa mort, Saül fait du spiritisme, mais le royaume va être baptisé dans la joie de Dieu. C'est ce qui suit les hommes de l'onction. Quelques partages très simples concernant les fils d'Issacar. Je suis comme vous. Je pense vraiment que Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Et que certaines lectures qui peuvent paraître au premier abord rébarbatives, parce que, bon, on cite les tribus, les nombres, tout ça. Dans ma vie d'aujourd'hui, moi à Nyon, en Suisse, en 2019, avec la pluie qui arrive demain, nous avons tort. Enfin, ils ont tort, ceux qui pensent comme ça. Parce que je vais refaire un petit inventaire avec vous. Regardez bien, ou écoutez bien, le dénombrement. Judas, 6800. Siméon, 7000. Lévi, 4600 plus 3700. Benjamin, 3000. Éphraïm, 20800. La demi-tribu de Manassé, 18000. Zabulon, 50000. Nephtali, 1000 chefs plus 37000 hommes. Dan, 28600. Azer, 40000. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, donc on parle de ce qui est au-delà du Jourdain, 120000. Mais pour Issacar, 200. 200, plus leurs frères, et le Saint-Esprit n'a pas trouvé bon de nous dire combien ils étaient. 200. D'un seul coup, ceux qui ont l'intelligence des temps, là, dis non, 200. Plus leurs frères, et encore une fois, on ne sait pas combien ils étaient. Et compte tenu de l'importance qu'ont eu les fils d'Issacar dans cette période de détournement de la royauté vers David, je me dis, je nous dis ce matin, mes frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, ne méprisons pas les petits. Ne méprisons pas ceux qui peuvent paraître dans l'Église les plus insignifiants. Parce que parfois, ils ont reçu des grâces et des dons particuliers qui sont de la plus haute importance pour les autres. Et je m'aperçois que cette tribu, ces fils d'Issacar, qui ont eu l'intelligence des temps pour savoir ce que tout le monde devait faire, étaient parmi les plus petits, les plus nombreux, les moins nombreux. Dans des récits de réveil, j'ai lu cela dans un livre de Charles Finet, donc c'était hier tout ça. Bravo. Mais l'éternel ne change pas. Ah bon, dans une certaine ville, il n'y avait pas eu de réveil depuis bien des années. L'église était à demi morte. Tous les jeunes étaient inconvertis. Ce n'était que ruine et désolation. Dans un quartier retiré de cette ville, habitait un certain forgeron, homme âgé et bègue. Pouvant si difficilement s'exprimer qu'il était pénible de l'entendre parler. Un certain vendredi, il fut tourmenté quant à l'état spirituel de son église, l'intelligence des temps, et de ses nombreux inconvertis. Son agonie devint telle qu'il dut fermer sa boutique et se livrer sans réserve à la prière tout l'après-midi. Cet homme persévéra, et le lendemain, il alla trouver son pasteur pour le prier de convoquer une réunion extraordinaire. Après quelques hésitations, le pasteur y consentit, faisant observer cependant qu'il y aurait probablement fort peu de monde. Quand vint le samedi soir, il arriva plus de gens que le local n'en pouvait contenir. Tous furent recueillis et silencieux au début de la réunion. Puis un pécheur éclata en pleurs, suppliant l'assistance de prier pour lui. Un autre suivit, puis un autre encore, et ainsi des gens de tous les bouts de la ville tombèrent sous la puissante conviction du Saint-Esprit. Le plus remarquable de tout, c'est que chacun d'entre eux faisait remonter cette conviction de péché au moment précis où le forgeron se trouvait en prière dans sa boutique, un réveil puissant s'ensuivit. Ainsi, ce pauvre vieillard, à la langue pesante, avait su persévérer dans la prière et remporter la victoire. Des petits, 200 fils d'Issacar, mais qui vont travailler à l'établissement de la royauté. Alors si nous ne sommes pas appelés, bien évidemment, à mépriser ceux qui sont les plus insignifiants, je m'empresse de parler de l'autre côté de la pièce, l'autre facette. Ne nous sentons pas trop petits pour recevoir des grâces de la part de Dieu et être utiles à l'Église. Ne nous laissons pas complexer par notre adversaire. Ne disons pas « je suis petit, je ne peux pas faire de grandes choses ». Je crois que les fils d'Issacar nous enseignent. Nous tenions des réunions en Haute-Normandie, dans la région de Rouen. La salle centrale était arrivée à accueillir, on va dire, au culte 500 personnes peut-être. Et nous étions 7 pasteurs. Et la vision que nous avions, c'était d'établir au fur et à mesure que l'Église grandissait, des églises dans les communes aux alentours, pour permettre le développement dans l'évangélisation, atteindre les gens là où ils étaient. Et une certaine année, nous avons remarqué qu'il y avait 20 chrétiens dans la région Est. Donc c'était, on va dire, la commune était contiguë à Rouen, mais dès qu'on sortait de la commune, c'était la campagne. On s'est dit, ça c'est formidable, ça va nous permettre de toucher aussi le monde rural. Donc on a acheté une maison qu'on a transformée en salle de réunion. Il y avait à l'époque, une 60aine de places. Il y a eu des agrandissements après. Mais on a commencé ainsi l'œuvre, et avec des réunions d'évangélisation. Et nous avions une réunion, entre autres, le jeudi après-midi, et une femme arrive, cassée en 1000 morceaux. Cassée en 1000 morceaux. Cette femme, avec son mari, tenait, comment on va appeler ça, une supérette, vous savez, un petit magasin où on vend un petit peu de tout, l'alimentation. Dans la campagne, c'était les seuls. Sa gamine de 2 ou 3 ans joue dans le jardin, et à un moment donné, la gosse se sent mal. Donc la maman se précipite, rentre l'enfant, appelle le médecin, et le temps que le médecin arrive, la gamine est décédée. Et à partir de ce moment-là, la maman a plongé dans une dépression nerveuse inouïe. Elle a perdu le sommeil, elle ne pouvait plus tenir la caisse du magasin, elle ne se lavait plus, elle ne s'habillait plus, elle ne faisait plus la cuisine, c'était une femme démolie. Donc, neuroleptique à haute dose, cure de sommeil, elle a transité par une secte, et puis finalement, elle a entendu parler de nos réunions, et elle arrive ce jeudi-là, cassée. Elle écoute l'évangile, puis elle revient, puis elle revient, puis elle revient. Et plus tard, elle nous expliquera que Dieu ne l'a pas guérie instantanément, mais que la guérison s'est faite progressivement. C'est-à-dire qu'il y avait des plongées, des remontées, des plongées, des remontées, mais vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, elle venait, après elle venait le dimanche, le jeudi et le dimanche. Et quand elle partait le dimanche après-midi, elle se disait, bon, c'est vrai que ça allait mieux. Le lundi, ça allait moins bien. Le mercredi, au milieu de la semaine, c'était le creux. Mais elle se disait le vendredi, dimanche, j'y retourne. Alors l'espoir renaissait dans son cœur. Et Dieu l'a reconstruit comme ça, au fur et à mesure. Jusqu'au moment où elle a fait complètement surface. Et elle est complètement sortie de sa dépression. Elle dira plus tard dans son témoignage, une maman ne peut pas oublier l'enfant qu'elle a perdu, mais la joie de Dieu a fini par être plus forte que tout. Elle s'est convertie, parce qu'être guérie de la dépression, c'est une chose, c'est pas pour ça qu'on devient chrétien. Donc elle a compris l'œuvre de Jésus à la croix, elle s'est convertie, elle est devenue une magnifique chrétienne. Le mari n'était pas contre l'évangile, mais il n'était pas tout contre. C'est-à-dire que il l'amenait le jeudi soir à la réunion, il attendait dans la voiture, et puis on rentrait à la maison. Et un jeudi soir, nous avions la réunion d'évangélisation, oh ma joie, je vois cet homme qui rentre. Et il se met tout au fond. Bon, je comprends ça. Et au moment où je prêche, je le vois en train d'écrire. Je me suis dit, t'as intérêt à bien prêcher parce qu'il prend des notes. Et le jeudi suivant, pareil. Et au bout d'un moment, la brave sœur, Madame de Conillou, vient me voir et elle me dit, « Vous savez, Monsieur Ballière, vous avez vu mon mari ?»«
Bah oui. »
« Vous avez vu, pendant la réunion, il écrit ?»« Bah oui. » Et là, j'ai commencé à avoir un doute. « Mais vous savez ce qu'il fait ?»« Bah non. » Bah, il fait ses comptes de la journée. Alors, je lui ai dit, écoutez, il ne trouble pas la réunion, il ne gêne personne. Laissez-le faire ses comptes. Il vaut mieux qu'il fasse les comptes. Bon, pardonnez-moi de dire ça, je vais peut-être avoir des ennuis avec les responsables. Il vaut mieux qu'il fasse ses comptes pendant la réunion que de les faire dans la voiture.
Mais pendant que tu comptes.
Oui. Et alors, au bout de quelques semaines, il a cessé de faire les comptes. Il était toujours au fond. Et entre-temps, un petit Fabrice était né dans le foyer. Et puis le temps a passé. Un certain temps, puisque l'enfant arrivait à 2 ou 3 ans. Et l'enfant ne parlait pas. Et j'ai vu... Monsieur de Conillou montait de plusieurs rangs et arrivait au milieu de la salle. Et puis un jeudi soir, il y avait son petit Fabrice et j'ai vu Monsieur de Conillou prendre le gosse et venir devant. Et je me suis dit, là, tu as pris une châtaigne, c'est ta soirée. Et on a prié pour l'enfant. Eh bien, mes frères et sœurs, le jeudi suivant, ne me demandez pas comment Dieu l'a fait. L'enfant parlait comme un enfant de 3 ans. Maintenant, au niveau de la clientèle du magasin, les gens disaient, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Madame de Conillou? Vous êtes rayonnante. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? C'était une résurrection. Une résurrection. Et elle se pressait pas de rendre la monnaie. Et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Vous savez quoi? Elle nous a amené 200 personnes aux réunions. Et c'est par son témoignage à elle que cette œuvre nouvelle s'est bâtie. Et cette femme transférait tellement la royauté, cette petite fille d'Issacar, simple femme, que quand les gens arrivaient, s'ils étaient malades, ils arrivaient avec la foi pour être guéris. S'ils étaient... Allez, je vais prendre un jargon qu'on est en famille. Pêcheurs, ils arrivaient pour saisir le salut. Et on a vu. Moi, j'avais qu'à cueillir les fruits. On a vu de jeudi sur l'autre des gens miraculés, des gens qui avaient des maux graves, être guéris instantanément d'une semaine sur l'autre. Un jeudi soir, on voit une fille arriver, athée jusqu'au bout des ongles, plus athée, tu meurs. Bouleversée par la réunion. Bouleversée, convertie dans la réunion. Elle rentre, elle parle à une collègue, à une camarade du village où ils étaient là-bas. Et la fille lui dit, mais où t'as mis les pieds, Anne? Mais où t'as mis les pieds? Et le jeudi suivant, elle était là. Et la fille, l'autre fille s'est convertie. On a vu l'œuvre se développer comme ça. Et quand nous sommes partis dans une commune qui n'avait pas 3000 habitants, il y avait une assemblée d'une centaine de membres. Les fils d'Issacar. Des petites gens, mais qui ont compris l'intelligence des temps et qui établissent la royauté. Maintenant, autre chose. Si vous lisez bien la liste qu'on a replacée sous nos yeux tout à l'heure, en lisant tous les versets, vous remarquez qu'Issacar n'était pas tout près géographiquement de David. David était en Juda. Donc on est dans le sud. Tandis que Issacar est dans le nord. Donc, je dis même qu'Issacar était parmi les plus éloignés avec Zabulon et Nephtali. Et c'est pour ça qu'on a au verset 40 cette précision, et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issacar. Parce qu'Issacar est au nord et c'est une des tribus les plus éloignées de Juda. Ce qui m'amène à dire que certaines tribus étaient plus favorisées que d'autres géographiquement. Et si vous avez une carte, et vous pouvez le refaire après, une carte d'Israël à ce moment-là, et que vous lisiez encore un Chronique 12, vous vous apercevez que la liste part du sud, avec Juda et Siméon même, qui est encore plus au sud, et que progressivement le texte biblique remonte vers le nord. Depuis Juda, Siméon, et ensuite, progressivement, on va vers le nord, on s'éloigne de Juda, et on arrive jusqu'à Issacar. Tout près, ou plus loin, toutes étaient appelées à détourner la royauté vers David. Alors c'est vrai que certains frères et sœurs sont plus favorisés que d'autres. Il y a des gens dans nos assemblées qui sont de la tribu de Juda, sont pas loin. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt vers Issacar. Qu'est-ce que j'entends par là? Le temps dont ils disposent, l'âge. Quand on est jeune, on est plutôt en Juda. Quand l'âge est là, on est plutôt en Issacar. Parfois, il y a la situation spirituelle du foyer quand l'un des deux n'est pas converti. C'est pas simple. C'est pas simple. Il y a toutes sortes de paramètres qui entrent en jeu. Mais je me dis que l'on soit de Juda, de Siméon ou d'Issacar, nous sommes tous appelés à détourner la royauté vers le Seigneur Jésus. Jésus mérite nos efforts, il mérite notre service, il mérite notre consécration, il mérite notre générosité. Je voudrais encore partager deux pensées avec vous. Si les fils d'Issacar étaient les moins nombreux et parmi les plus éloignés géographiquement, ils possédaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alors c'est vrai que tous ces hommes issus des tribus avaient des qualités que je vais souligner dans quelques courts instants, et je pense que les fils d'Issacar n'étaient pas dispensés de ces qualités-là, bien au contraire. Parce que s'ils n'avaient eu que l'intelligence des temps pour transférer la royauté à David avec les combats qu'il allait avoir à livrer, ils n'auraient pas été en mesure de le faire. Mais je dis que les grâces exceptionnelles dont nous pouvons être les bénéficiaires ne doivent pas nous dispenser de nous établir et de demeurer sur les bases fondamentales. Qu'est-ce que j'entends par base fondamentale? La foi véritable, la parole de Dieu. On parlait avec des frères au petit déjeuner ce matin. Nous vivons dans des temps de confusion, de déviation terrible dans le domaine spirituel. Et je crois que l'ancrage pour notre vie, c'est la parole de Dieu. Qu'elle habite en nous, au milieu de nous, abondamment. C'est le repère fondamental. Il faut tout analyser, tout filtrer au moyen de la parole de Dieu. Les bases fondamentales de la justice, c'est-à-dire la vie conforme au caractère de Dieu, le salut, la vérité, le zèle, une vie de prière intense, on aura peut-être l'occasion de voir ces choses-là. Je ne suis pas dispensé, même s'il y a quelques dons surnaturels dans ma vie, quelques grâces, de rester établi sur la parole de Dieu. Et je voudrais vous le dire comme un avertissement, mais vous le savez, je ne vous rappelle, je fais que rappeler les choses que vous connaissez. Quand certains ont reçu de la part de Dieu des dons magnifiques, et je sais ce que je mets derrière ça, des dons magnifiques, et ont commencé à être légers sur les bases spirituelles fondamentales, se reposant sur leurs dons, sur leurs succès, sur leurs résultats, ils ont capoté. Et l'histoire de l'Église, plus ancienne et plus récente, est malheureusement entachée de chutes retentissantes. C'est un fait que certains ministères de puissance à grande échelle des hommes sont tombés. Et quand on démonte le processus, on s'aperçoit qu'à un moment donné, ces hommes se sont laissés, d'une manière ou d'une autre, piégés par l'ennemi, et la relation qu'ils auraient dû continuer d'avoir avec le maître sur les bases fondamentales a été négligée. Vous savez, c'est comme notre organisme. Si je l'alimente, si je maintiens mon organisme le mieux possible comme il doit l'être, quand les virus circulent, Dieu nous a fait d'une telle manière qu'en nous, il y a un système immunitaire qui fonctionne. Et l'organisme est mieux apte à se défendre contre les saletés qui circulent quand il est alimenté normalement. Bon, quand on en prend soin normalement. Si je ne mange plus, si je me néglige dans toutes sortes de domaines, mon organisme s'affaiblit. Et là, je vais choper les virus qui circulent. Et Dieu n'est pour rien là-dedans. Il y a des lois naturelles. Il y a des lois spirituelles. Nous avons besoin d'une communion permanente avec le Seigneur. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Je me le dis chaque jour. Chaque jour. L'onction d'hier, si il y a eu quelque onction sur ma vie, ne m'est d'aucun secours ce matin pour vous prêcher. Dieu n'est pas le Dieu des surgelés ni des conserves. Non, mais Dieu n'aime pas les surgelés ni les conserves. David parlait d'un Dieu qui est loin d'une huile fraîche. Et je dois être le chrétien de chaque jour. Pas le chrétien d'hier qui vit sur une lancée. Le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Je ne peux pas parler de ma foi d'hier, de mon baptême de l'esprit d'hier, de ce que j'ai vécu hier. C'est formidable. Mais Dieu est le « je suis ». Et ce matin, il vient nous rencontrer là à quelques-uns. Non pas comme le Dieu d'hier, mais j'ai affaire au « je suis » ce matin. Et il attend des physisacars, des gens qui vont être les hommes de chaque jour. Alors oui, je reviens à ça. Béni soit Dieu pour les ministères, béni soit Dieu pour les dons, béni soit Dieu pour tout ce qu'il fait de magnifique. Il faut que tout cela reste ancré dans ce qui est fondamental et élémentaire. Et je parle à des frères et sœurs qui connaissent leur Bible. Il y a 9 charismes, avec les dons de révélation, de puissance, d'inspiration. Et il y a 9 manifestations du fruit de l'esprit. La balance est équilibrée. Les 9 charismes, c'est ce que Dieu me donne, c'est ce qui vient sur moi, c'est des cadeaux de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui se fait en moi. Les charismes, ou les dons, au-delà des 9 dons, on va élargir le cercle. Toutes ces grâces surnaturelles, c'est pour faire. Le fruit de l'esprit, c'est pour être. Et plus je relis ma Bible, et j'ai enseigné ça dernièrement à des futurs pasteurs, plus je lis ma Bible, plus je m'aperçois que Dieu prend soin d'abord de ce que nous sommes, avant de s'occuper de ce que nous allons faire. Et je vais vous dire ceci. Vous allez me comprendre, là encore, le mot est dangereux. Plus Dieu va nous faire monter, plus il va travailler d'abord à nous faire descendre. Pour que nous n'oublions jamais d'où il nous a fait remonter pour son service. Tu veux être le premier, je comprends. Tu veux être le premier après Pharaon, tu vas aller dans la citerne et tu vas aller dans la prison. Et quand tu espéreras que le panetier, les chansons se souviennent de toi, parce que comme ça ne se fait pas surnaturellement, alors tu comptes sur les hommes, ben tu verras que les hommes vont t'oublier. Ne compte pas sur les hommes pour te sortir d'une situation. Ils t'oublieront. Il n'y a que Dieu qui ouvre les vraies portes. Alors tu vas être là et tu vas y rester aussi longtemps qu'il le faudra pour que Dieu te façonne. C'est curieux que Dieu joue au yo-yo avec David. Enfin, c'est un garçon qui demande rien. Il est là dans ses champs, derrière ses brebis. Il y a une réunion de famille, et pas la moindre. On ne vient même pas le chercher. Tous les fils d'Isaïe sont là, sauf lui. On n'a pas trouvé bon de faire venir ce petit berger, là. Et puis, vous connaissez l'histoire, Samuel verse la corne. Et à ce moment-là, on sait que le petit berger va être roi. Et Dieu commence à le faire monter. Il ne demande rien, David. Dieu va le tirer des brebis. Alors, les champs, ça sent pas bon, tout ça. Il faut sentir les brebis quand on est berger. Hein? Amen. Et il le fait monter. Il le fait monter. Et il arrive sur le parquet ciré du palais. Et là, avec l'onction. Et le petit berger. Mais il joue avec une telle onction que le mauvais esprit se retire de Saül. Puis il va monter dans la carrière militaire. Saül lui confie un poste. Puis là, Dieu commence à bénir. Quand Dieu commence à vous bénir, non seulement le diable n'est pas content, mais certains frères non plus. C'est curieux, ça. Il n'y en a pas en Suisse, là, mais ailleurs. Oh là là ! Oh là là, ailleurs !
On les a tous envoyés.
Oh là là ! On va vous les renvoyer, frère. Alors, David va redescendre. Oh, mais il va redescendre. Et il va redescendre. Jusqu'à la caverne d'Adullam, où il n'y a plus personne. Et il est là, dans sa solitude. Alors ça va arriver tranquillement, parce que Dieu va le réconforter. Il va même y avoir un courant prophétique avec Nathan. Mais il va y rester un bon bout de temps. Qu'est-ce que Dieu fait là? Il est en train de former l'homme. Il est en train de former l'homme. Et c'est pourquoi je dis, oui, il faut faire, mais attention. Avant d'avoir la vision de faire, il faut avoir la vision d'être. Le fruit est ce que Dieu nous donne après. Et quand les deux se sont conjoints, se tricotent ensemble, alors oui, de bonnes choses peuvent se produire. Et rapidement, un dernier point concernant les fils d'Issacar. Mais mêlés aux autres. Qu'est-il dit des autres? Quelles sont les caractéristiques de tous les hommes qui sont là cités dans 1 Chronique 12? Armés pour la guerre. Détourner la royauté vers David, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas une autoroute parsemée de pétales de rose, c'est la guerre. Parce que nous avons un ennemi. Et là, je me souviens de Paul. Prenez toutes les armes de Dieu. Des hommes obéissant à Dieu. Je fais le résumé de ce qu'on a lu ensemble. Je ne prends pas le temps de relire les versets. Pierre dit que nous avons été élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit pour devenir obéissants. Armés du bouclier de la lance. Et là, j'entends encore l'apôtre Paul. Prenez le bouclier de la foi. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Des hommes vaillants à la guerre. Et là, j'entends encore Paul dit « Fortifiez-vous par la force toute-puissante de Dieu. » Et dans 1 Corinthiens 16, « Soyez des hommes, même aux femmes, même aux sœurs. » La Bible dit « Soyez des hommes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, c'est « Soyez viril. » Alors, un chrétien, homme, doit être viril de la virilité spirituelle et une chrétienne, femme, doit être virile de la virilité spirituelle. Capable de faire le bon choix. Avez-vous remarqué ça? Je vais terminer avec ça parce que je prendrai trop de temps.
Non.
Avez-vous remarqué ça? Ça, c'est très, très important. C'est que parmi tous ces hommes qui viennent de toutes les tribus vers David, il y a les fils de Benjamin. Mais alors là, il a fallu du courage parce que Saül est de la tribu de Benjamin. Et c'est pourquoi les Benjamites ne sont pas les plus nombreux. Hein, parce que là, il a fallu payer le prix pour aller chercher David comme roi. Il y a eu un prix à payer, là. Regardez Jonathan. Jonathan, ami de David, a une amitié formidable, saine, pure, magnifique. Alors, on sait comment Jonathan défend David contre les réactions de Saül. Enfin, vous connaissez l'histoire. Jonathan est magnifique. Et puis, il y a le rejet de David. Et Jonathan va rejoindre David une dernière fois dans la forêt. Et puis, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et puis, Jonathan proteste encore de son amitié pour David et il dit « Je sais que tu seras roi ». Et c'est vrai. C'est-à-dire que, écoutez, en embrassant physiquement David, Jonathan embrasse toute la promesse messianique. Parce que Jésus va être fils de David. Donc, il y a là une dimension chez Jonathan qui lui échappe certainement. Mais c'est extraordinaire, cette communion qu'il y a là. Et il dit, je sais que tu seras roi. Et je vais régner avec toi, je serai après toi. Ben alors, comment ça se fait que tu laisses David s'en aller? Si tu es convaincu que le système de ton père, excusez-moi de parler comme ça, est pourri, si tu te rends compte que le système de ton père est un système qu'il a rejeté depuis longtemps, dans lequel il n'est plus, qu'est-ce que tu fais encore dans ce système-là? Mais sors et va rejoindre David. D'accord, il n'est pas encore sur le trône. Pour l'instant, il est rejeté, méprisé. Mais suis-le, puisque tu as la foi dans ce qui va arriver. Mais non. Jonathan va de son côté, David va du sien. Jonathan va vers le trône, Jonathan vers la montagne de Gilboa où il va mourir. Parce qu'il ne règnera jamais. Il va mourir avec le système qu'il n'a pas eu le courage de quitter. Il va mourir avec le système qu'il n'a pas eu le courage de quitter. Le savoir, le dire, c'est une chose. Le vivre, c'en est une autre. Et moi, je vous dis, mes frères et sœurs, nous voulons transférer, détourner la royauté vers David. Flairons les endroits où Dieu n'est plus. Il y a une telle confusion aujourd'hui qui déferle de partout qu'il faut nous tenir sur nos gardes et dire, même si notre Jésus, même si mon Jésus est aujourd'hui encore rejeté, méprisé, même si c'est encore la forêt salutaire, c'est pas encore le trône, je sais que c'est lui qui va régner. Et quoi qu'il en coûte, même si je perds des amis, même si je perds des appuis, c'est lui que je suivrai. Jusqu'au moment où, parce que j'aurai souffert avec lui, je régnerai aussi avec lui. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse, on va prier quelques instants le Seigneur. Le frère a suggéré que nous ayons la liberté d'avoir quelques courtes minutes de prière. Donc si vous avez à cœur de répondre avec vos mots, les dispositions de votre cœur, à ce que le Seigneur a pu nous dire ce matin ou autrement, n'hésitons pas à le faire librement devant sa face et ensuite nos frères organisateurs et responsables géreront la suite de cette matinée.